psychomotrices, mais donc là ça a l'air de fonctionner. Donc ce matin j'avais envie de vous proposer de regarder ensemble la lettre à l'assemblée de Sardes, qui est donc une des lettres qu'on trouve dans l'Apocalypse. Voilà, l'Apocalypse, c'est ce livre de 22 chapitres qu'on a l'habitude de découper un peu en trois parties qui se prêtent assez bien à ce découpage. Alors ces trois parties qui sont très inégales, mais en fait on obtient ce découpage parce qu'on a un verset au chapitre 1 qui dit que à Jean sont révélées les choses, il doit écrire dans l'Apocalypse, qui est un livre de révélation, les choses qu'il a vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. Donc on a un peu ces trois temps qu'il est donné à Jean d'écrire. Et en fait, au chapitre 4, on a ce verset qui dit « Monte ici et je te montrerai maintenant les choses qui doivent arriver ». Et donc on a l'impression que ça marque un peu le début de ce troisième temps. Ce qui donne un peu le découpage des chapitres 4 à 22 avec les choses qui doivent arriver, qui nous parle plutôt un petit peu du futur et la partie de l'Apocalypse qui traite des choses qui doivent arriver. Ce qui a été dit donc avant le verset, c'est les choses qui sont, et du coup les chapitres 2 et 3, les choses qu'il a vues, pardon, et les chapitres 2 et 3, c'est les choses qui sont. Donc voilà, c'est un découpage qui n'est pas forcément hyper utile, mais c'est juste pour situer le fait que dans les chapitres 2 et 3, on a donc ce moment où l'Esprit va s'adresser à sept assemblées différentes, sept églises. Et pour chaque église, il a un message très particulier, qui n'est pas très long, à chaque fois c'est un paragraphe, qui parle souvent de certaines choses très positives et où il les félicite. Et ensuite, toute une partie plus dure ou exhortation, ou en tout cas, une partie un peu plus difficile, où honnêtement, il va dire à cette assemblée ou à cette église quel est le problème et qu'est-ce qu'il va faire. Alors pourquoi ce passage ? Moi je trouve que c'est un passage qui est assez fascinant, enfin c'est l'être aux sept églises, et en fait j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que c'est un passage duquel je me suis facilement distancé, un peu pour différentes raisons. La première c'est que on est dans l'Apocalypse, et donc dans l'Apocalypse, on a plutôt l'impression, c'est le cas, d'être dans un livre de révélation plutôt qu'un livre d'exhortation. Et donc on n'a pas l'impression qu'au milieu de toutes ces images et ces symboles et ces choses qui nous parlent du futur, souvent c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux apprendre. Et donc le simple fait que ces sept exhortations-là soient dans l'Apocalypse, ça fait que moi j'avais un peu tendance à m'en distancer ou à pas forcément me demander qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre. L'autre chose, c'est que ces sept églises d'Asie mineure, de l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse. Et donc, de fait, il y a un peu un décalage culturel et temporel. Enfin, si c'est des églises de l'époque, en fait, les contextes étaient tellement différents, les défis étaient tellement différents que pourquoi ça me concernerait aujourd'hui, ou en tout cas notre église encore aujourd'hui. Une autre lecture qu'on entend, que j'avais entendue en tout cas parfois, c'est le fait que ces sept églises nous parlent plutôt de sept grandes étapes de l'histoire de l'église. Et donc, il y a un peu cette lecture qui est très chouette, et je pense qu'il y a aussi souvent différents niveaux de lecture, et on peut voir un peu dans les spécificités de chaque église les défis qu'on retrouve aussi dans l'histoire de l'église. Mais cette interprétation, aussi belle soit-elle, moi je trouvais qu'elle installait un peu une distance, parce que de se dire les défis de l'église primitive ou de l'église sous Constantin, etc., sont pas forcément les défis de notre église aujourd'hui ou que je vois aujourd'hui. Et en fait c'est un peu dommage, je trouvais, d'avoir un peu cette distance. Pourquoi ? Parce que, au fond, c'est sept messages qui sont quand même assez incroyables et qui ont vraiment cette particularité d'être des exhortations qui viennent de Dieu lui-même, ou plus spécifiquement de Jésus lui-même. Alors, je sais que c'est assez petit, le but, c'est pas forcément de pouvoir tout lire, mais ici, j'ai listé, en fait, à chaque fois que l'Esprit s'adresse à une église, on a la description de celui qui parle. Et pour ces sept églises, on a une description différente, et en fait on se rend compte un peu à d'autres moments dans l'Apocalypse que toutes ces descriptions, elles correspondent à Jésus-Christ qui est révélé d'une manière ou d'une autre dans l'Apocalypse. Et donc on a un peu, et ça rejoint un petit peu le message de Ben, cette facette, cette nom différente de Jésus ici dans ses lettres aux églises, et qui sont cette facette de lui qui s'exprime, on va dire, à ses églises. Et c'est assez rare d'avoir des exhortations de Jésus lui-même, de Dieu lui-même, envers des églises. Souvent, on a les lettres de Paul, on a les lettres de Pierre, mais on n'a pas des choses qui viennent de Jésus lui-même. Et donc, un petit peu cette démarche de se dire, bon, ben, si ça vient de Jésus, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui pourraient nous concerner aujourd'hui, des choses qu'on pourrait essayer d'apprendre, essayer de garder pour nous. Et donc nous, on va se concentrer sur le cinquième, qui est le message à l'église de Sardes, parce qu'il m'a touché. Avant de plonger dans l'église de Sardes, quand on garde encore un petit peu la vue d'ensemble des sept églises, il y a autre chose que je trouve assez fascinant, c'est la partie des récompenses. Donc en fait, chaque message à une église, elle est structurée comme ça. L'esprit dit à l'assemblée, ensuite on a la description de celui qui parle, ensuite il y a une exhortation, et puis à la fin, il y a à celui qui vaincra, et puis là, il y a une récompense qui est donnée. Et en fait, ces récompenses, je vous ai, les ai notées ici, on a pour Éphèse quelque chose en rapport avec l'arbre de vie, pour Smyrne, le fait que ceux qui vaincront n'auront pas à souffrir de la seconde mort. Pour Pergame, je lui donnerai la manne cachée. À Thyatire, c'est l'autorité sur les nations et la verge de fer. À Sardes, c'est des vêtements blancs et les noms ne seront pas effacés du livre de vie. À Philadelphie, c'est une colonne dans le temple et celui qui vaincra portera le nom de Dieu, mon nom et le nom de ma ville. Et à Laodicée, c'est de s'asseoir avec moi sur le trône. Et en fait, je trouvais assez touchant et fascinant de voir que c'est comme si chacune de ces récompenses, donc déjà chacune des caractéristiques, c'était des noms différents de Jésus, mais en fait chacune de ces récompenses, elles sont aussi liées de proche ou de loin à Jésus lui-même. Ou en tout cas, un petit peu en nombre. C'est-à-dire que quand on a le fait qu'il n'ait pas à souffrir de la seconde mort, en fait ça nous parle tout de suite du salut qui est donné en Jésus, par Jésus. Enfin, il est le seul chemin qui mène à Dieu. La manne cachée, ça nous fait penser à Jean 6, et ce moment où il révèle que en fait, c'est lui le vrai pain qui est descendu du ciel et que cette manne qui était donnée au peuple d'Israël dans le désert, c'était un peu une ombre de Jésus étant le pain de vie. Le fait qu'il ait l'autorité sur les nations et la verge de fer, en fait, ça fait penser au psaume 2 où justement il est dit qu'il tient cette verge de fer et que c'est à lui que Dieu a donné toute autorité. On a encore l'arbre de vie qui est sûrement, d'une certaine manière aussi, une image du fait que la vraie vie, en fait, c'était Jésus. Et donc, c'était simplement une pensée de se dire, bah, en fait, c'est assez fascinant de voir que, au fond, chacune de ces églises, elle a besoin d'une chose, c'est de Jésus. Elle a besoin d'une facette différente, certes, peut-être d'une révélation différente, mais au fond, elle a besoin de Christ. Et je pense que c'est un encouragement encore pour nous aujourd'hui de se dire, bah, en fait, notre église, l'église d'à côté, alors on a des sensibilités différentes, on a des défis différents, on a des exhortations différentes, mais en fait, au fond, on est appelé à s'attacher à la même personne qui est Jésus-Christ, et c'est elle, on va dire, c'est cette révélation-là, c'est cet attachement-là qui nous fait avancer. Alors, on va pouvoir plonger dans l'exhortation de Sardes. Et donc, je vous ai mis ici le texte, qu'on trouve dans Apocalypse 3, au verset 1 à 6. « Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Et on va se concentrer sur la partie jaune pour l'instant, et puis la suite peut-être à plus tard. Donc ça commence avec « Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir. » Pour toutes les églises, l'ange y commence avec une formule très similaire où Jésus commence avec une formule très similaire qui est « Je connais tes œuvres » ou « Je connais ta tribulation » ou « Je sais où tu habites ». Et ça me touche beaucoup parce que c'est comme s'il commençait en disant pas besoin de m'expliquer la situation dans laquelle tu es, je te connais. Je connais profondément ce que tu éprouves, je connais profondément ce dont tu as besoin aussi. Et donc ce que je vais pouvoir t'annoncer ou te dire, en fait c'est quelque chose qui est pertinent pour toi, c'est quelque chose qui est extrêmement à propos. Et nous, on a souvent besoin que les gens nous expliquent plein de fois leur situation, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est intriqué, pour être capable de donner une parole d'encouragement qui soit un peu à propos. Mais on a vraiment cette certitude que Dieu connaît, que Jésus connaît, et il connaît aussi dans nos situations. Le psaume 139, c'est un psaume qui montre à quel point Dieu nous sonde et nous connaît, et à quel point il sait ce par quoi on vit et ce qu'on ressent. Donc un peu quelque chose à garder pour nous. Il sait nos joies, il sait nos peines, il connaît nos combats. Il commence aussi à nous parler en disant « Je sais, pas besoin de m'expliquer et voilà ce que j'ai pour toi. » Ensuite, le début du message, il est quand même assez sévère pour le coup à l'assemblée de Sardes. Et il dit « Tu as le nom de vivre, mais tu es mort. » Dieu reproche un peu à cette église d'avoir le nom de vivre, de prétendre être vivant, alors qu'à ses yeux, elle est morte. Et en fait, il semblerait que, c'est tout ce que j'ai lu quelque part, mais que la Sarde antique était vraiment une ville extrêmement importante. C'était la capitale d'un petit pays qui s'appelait la Lydie. C'était une ville qui était au confluent de pas mal de routes, un petit peu de commerce. C'était une ville qui était un peu sur un plateau, et donc l'acropole, qui était le centre de la ville, était une forteresse un peu imprenable. Donc en plus, une puissance militaire. Et donc, c'est une ville qui avait un rayonnement, en tout cas dans l'Antiquité, assez extraordinaire. Mais en fait, au moment d'écrire ça, il semblerait que la ville avait déjà plus que l'ombre de sa splendeur passée. Et en fait, donc, elle bénéficiait du nom de Sardes, mais les choses avaient commencé un peu à se décomposer. Et c'est comme si ici, l'Église avait suivi ce mouvement et en fait... n'avait de vivant que le nom et voilà qu'elle avait plus que le nom de vivre. Et du coup c'est un peu un message à toutes ces églises ou ces mouvements qui s'appuient sur une gloire passée qui n'ont aujourd'hui plus vraiment cette vie, donc un peu cette vigilance en fait à se dire c'est pas parce que il y a eu des grandes choses qui se sont passées par le passé que ça reste toujours comme ça. Et il y a un monsieur qui s'appelle Vance Hovner qui a une citation que je trouve assez parlante qui décrit un petit peu les phases par lesquelles un ministère chrétien ou même autre passe souvent. Et donc on a souvent à l'origine de tout ministère un homme, une femme. Je vous ai mis en anglais parce que ça sonne mieux, vous verrez pourquoi. Ensuite, ça découle sur un mouvement. Il impulse quelque chose et puis c'est quelque chose qui va prendre vie et on trouve un mouvement. Ensuite, ça arrive sur une machine et puis finalement, on termine sur un monument. Et vous voyez qu'en anglais, on a les 4 M, alors là, c'est joli. Mais en fait, au fond, ce dont ça parle, et c'est très chouette, c'est ce fait que très souvent, le mouvement se cristallise en machine. Pourquoi ? Parce que on comprend les façons de faire, on hérite aussi de choses et le risque c'est d'arriver au stade de monument et certainement que Sardes c'était un petit peu ce stade là, c'est à dire qu'il y avait eu une grandeur passée à la fois dans l'église et dans la ville, mais en fait aujourd'hui le monument il a de grand que le nom, il a de grand que ce qu'il représente, mais il n'est pas vivant, il n'est pas grand en soi. Donc un petit peu un avertissement pour nous et certainement un avertissement à plusieurs niveaux. Enfin, je pense que le premier niveau aussi, c'est le niveau très fondamental, très personnel, très individuel, de se dire que ben c'est pas parce qu'on a le nom de chrétien qu'on est nécessairement sauvé. Enfin, cette notion d'avoir le nom de vivre mais d'être mort, c'est quand même beaucoup penser au salut, au fait que c'est pas l'apparence qui sauve, au fait que c'est pas la foi de ses parents qui sauve, au fait que L'important, c'est d'avoir rencontré Jésus, d'avoir reçu son pardon et sa vie. Et donc, c'est aussi comme si Jésus commençait pour toute Église avec ce rappel fondamental de dire, mais déjà que chacun s'examine, déjà que chacun soit vivant et accepte, me rencontre, accepte ce pardon et cette vie que je propose. Mais ensuite, ça remet aussi un peu devant nos yeux, enfin, du coup, d'avoir un peu de réaliser que, à un premier niveau, ça nous parle aussi de cette vie et de cette mort spirituelle. Ça remet un peu devant nos yeux ce que Dieu appelle lui-même vivant et ce que Dieu appelle mort. Et en fait, on a beaucoup de passages dans la Bible ou dans les évangiles où les gens ne comprennent pas le langage de Jésus. Toute une série de versets où, en fait, Jésus se heurte, entre guillemets, un petit peu à cette incompréhension des hommes, et il est obligé de reformuler ou de réexpliquer. Et moi, ça m'a fait penser au fait qu'il y a ce verset dans Jean 17, où Jésus dit qu'il parle vraiment les paroles de son Père. Il parle les paroles que Dieu lui a, on ne tient plus exactement de la formulation, mais qu'il a apprises de son Père. Et un peu cette impression que Jésus vient du ciel, entre guillemets, où il y a ce langage du ciel, et en fait arrive sur terre, et il parle encore ce langage, et en fait les gens ne comprennent pas. Et un exemple de ça, c'est justement la vie et la mort, ce que Jésus appelle vie, ce que Jésus appelle mort. Et on a par exemple ce moment où Jésus répond aux gens, aux pharisiens qui lui reprochent de parler d'anciens patriarches qui sont morts. Il dit non mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous vivent. C'est un peu cette prise de conscience de dire, mais en fait, vous n'avez rien compris, Dieu n'est pas le Dieu des morts à ses yeux. Isaac, Abraham, Jacob sont vivants. Au moment de la mort de Lazare, il est obligé de leur réexpliquer. D'abord, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, et je vais pour l'éveiller. Et donc, les disciples lui disent, ah bon, s'il s'est endormi, c'est que tout va bien. Et il leur dit, non, 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 il est mort. Mais seulement, dans mon langage, en fait, ça n'est qu'un sommeil, entre guillemets. Et puis, il y a aussi ce verset, pareil, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et de la même manière, par rapport à la mort, et un peu ce langage de Dieu par rapport à ça, ce que Dieu appelle mort et ce que Dieu appelle vie, on a ce moment où il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Et donc là, pareil, pour le jeune qui entend ça, c'est un petit peu mystérieux, il se heurte un petit peu à ce langage différent. Et l'autre exemple qui est marquant, c'est celui de Genèse, où Dieu va vraiment dire à Adam et à Ève, au jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez certainement. Et cet exemple, il est marquant parce que Satan vient précisément après leur dire, non, vous ne mourrez pas. Et de fait, on lit que Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Et donc, on est un peu confronté à cette tension entre ce que Dieu a dit, ce que Satan a dit. D'une part, on sait que Satan est le père du mensonge. D'autre part, on sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais il y a cette tension. Et en fait, c'est comme si cette tension se résolvait par le fait qu'ils ne parlent pas le même langage. Et dans le langage de Dieu, n'est vivant que celui qui a rencontré Jésus, qui est passé, on va dire, par l'étape de la croix et qui a reçu cette vraie vie de la part de Dieu. Une manière imagée, peut-être un peu non orthodoxe de le voir, je ne sais pas, c'est de prendre ce verset de 1 Thessaloniciens qui nous révèle un petit peu le fait que donc votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés sans reproche. Et donc il y a un peu cette notion que potentiellement on peut décomposer l'homme avec ces trois couches, le corps, l'âme et l'esprit. Et puis c'est assez intuitif de se dire que les plantes, en fait, enfin donc les humains, ils sont composés de ces trois couches. Les plantes, en fait, c'est que un corps. Et puis ensuite, je mets les animaux dans la couche du milieu. C'est pas l'âme comme on l'entend souvent qui est ce qui est sauvé par Dieu, mais c'est plutôt cette étape intermédiaire entre les hommes et les plantes. Et puis voilà, il y a un verset de Genèse qui parle des animaux comme et toutes ces choses qui ont en eux une âme vivante. Alors voilà, je ne rentre pas dans les détails, etc. Mais c'est juste pour montrer un peu cette différence de langage. En fait, c'est comme si Dieu aux yeux de Dieu, n'est vivant que celui qui a vraiment cette troisième couche, qui est la couche qui est propre à l'homme, un peu la couche de l'esprit. Et c'est comme si Satan s'exprimait par rapport à cette deuxième couche, qui est la vie ou la mort, plutôt physique. Et en fait, le petit détail qui fait que c'est aussi intéressant, c'est que dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au moment où Paul va parler de l'homme sans Dieu, qui ne reçoit pas les choses de l'esprit, il a cette expression où il parle de l'homme animal. Donc l'impression que l'homme sans cette troisième couche, en fait, est vraiment réduit à quelque chose comme un animal, entre guillemets, et on le sait bien, enfin, on parle souvent de l'homme charnel, etc. Et celui qui est vraiment vivant, on va dire, c'est celui qui vit selon cette troisième couche. Donc, un peu un avertissement pour nous à vraiment être vivant, pour de vrai. Donc, avoir ces trois couches, on va dire, de cette image qu'on voit. Une dernière pensée par rapport à ça, c'est simplement la tension entre ce qui est proféré ou ce qui est dit et ce qui est vraiment vécu. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans nos vies de chrétiens. Donc, on va dire, une fois qu'on a passé l'étape de est-ce qu'on est mort ou vivant selon Dieu, est-ce qu'on est sauvé ou pas, en fait, même parmi les vivants, entre guillemets, il peut y avoir cette tension entre ce qu'on dit, entre notre nom de chrétien, de petit Christ, et le fait que, est-ce que oui ou non, on porte des fruits en tant que chrétien. Et donc, c'est là sûrement aussi un encouragement un peu à avoir une foi qui n'est pas morte elle-même. Et on sait, d'après Jacques, que c'est les œuvres qui manifestent aussi une foi qui est vivante. Paul dit, en Christ, il n'y a plus circoncision ou incirconcision, grec ou juif. Ce qui est important, c'est la foi opérante par l'amour. Et ça introduit une petite pensée supplémentaire qui est le fait que, en fait, même en tant que chrétien, même quand on est, on va dire, vivant, il y a vraiment cette notion de cheminement où on avance de plus en plus dans notre vie avec Dieu. Et un verset qui illustre un petit peu ça, c'est ce verset de Galates 4, verset 19, où Paul, il parle, on va dire, à ses enfants dans la foi, où il parle de ses enfants dans la foi, et il dit « Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille, de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. » Et cette expression, elle me parle, et je boucle un peu avec la vie et la mort. Pourquoi ? Parce que c'est comme si dans ce chemin de chrétien, en fait, l'important, c'était que Christ prenne plus en plus de place en nous, que Christ soit un petit peu formé en nous, et c'est un peu ce chemin où on grandit dans la foi. Et en fait, à mesure que Christ est formé et prend de la place, tout ce qui est mort en nous, entre guillemets, tout ce qui n'est pas selon Dieu, en fait, ça s'en va également. Et donc, au moment où, dans le message de Sardes, il y avait cette dernière partie « Affermis ce qui reste, qui s'en va mourir », en fait, c'est comme si pour nous, c'était aussi un encouragement à se dire « Bah, laissons Jésus prendre plus en plus de place, laissons Jésus, entre guillemets, être formé de plus en plus dans nos vies pour ensuite chasser, enlever tout ce qui... affermir ce qui s'en va mourir et enlever, on va dire, tout ce qui n'est pas selon Dieu. La deuxième partie un peu de cette exhortation, c'est ce moment où Jésus dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu ». Donc, il y a des œuvres, certes, mais elles ne sont pas parfaites. Et on sait d'après le début que Jésus connaît ses œuvres. Et donc là où l'homme va un peu faire attention à l'apparence des œuvres, la visibilité, la quantité, la beauté, en fait, Jésus il va vraiment voir la qualité des œuvres. Et il va pouvoir dire si ses œuvres sont parfaites ou pas. Et c'est quelque chose qui fait réfléchir. Et en même temps, parfait, c'est quand même... une sacrée ambition. Enfin, en fait, c'est une demande qui est assez ambitieuse de dire il faut que nos œuvres soient parfaites devant Dieu. Et cette ambition de Dieu à notre égard, en fait, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve à pas mal d'autres endroits. Par exemple, dans Matthieu 5, où Jésus dit à ses disciples, dans le Sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Un peu cette exhortation à la perfection, un peu cette ambition à être parfait. Et j'ai aussi mis ces versets de 1 Jean parce qu'ils sont très catégoriques. Et ils disent, mais en fait, celui qui est en Dieu ne peut pas pécher. Si vous péchez, vous n'êtes... Enfin, c'est un peu cette ambition, on va dire, très, très élevée de Dieu vis-à-vis de nous. Et en fait, c'est un côté qui est très touchant parce que le revers de la médaille de l'ambition, au fond, c'est la confiance et l'estime. C'est-à-dire que quand vous avez un coach sportif qui entraîne ses étudiants, en fait, il ne va pas avoir pour quelqu'un l'ambition des Jeux Olympiques s'il ne croit pas que le jeune est capable d'aller jusque-là. Et donc, c'est comme si l'ambition traduisait ou trahissait, entre guillemets, cet amour, cette confiance, cette estime que le coach avait pour son étudiant, mais en fait que Dieu a aussi pour nous. D'une certaine manière, Dieu qui nous exhorte à la perfection, c'est Dieu qui nous dit qu'il croit en nous d'une certaine manière et qui nous fait profondément confiance et qu'ensemble, il sait qu'on peut y arriver. Et du coup, se pose un peu la question inverse qui est de dire, est-ce que moi, je crois en Dieu au point d'être ambitieux à son égard, entre guillemets, dans ma vie. Est-ce que je suis ambitieux, suffisamment ambitieux, en l'invitant dans mes impasses, en l'invitant à changer des choses, à faire des miracles, à débloquer des situations, parce que je crois profondément qu'il en est capable. De la même manière que lui le croit pour nous. Et on a des exemples qui sont un peu terrifiants parfois dans la Bible où des gens ont manqué d'ambition vis-à-vis de Dieu, ont manqué de confiance. On a par exemple les amis de Jésus où à la fin de tout un séjour chez lui, en fait, il y a ce verset qui dit, Matthieu 13, verset 58, « Il n'a pas pu faire à cet endroit de miracle à cause de leur incrédulité. » On a l'impression que Jésus est limité par le manque de confiance, le manque de foi des gens autour de lui. Il y a aussi Marthe et Marie dans la résurrection de Lazare qui viennent à lui tout dépité et ça se comprend, je suis pas en train de... Mais en disant, bah, on te pensait capable de guérir, mais en fait, aujourd'hui, c'est trop tard parce qu'on ne te pense pas capable de ressusciter. Donc, pourquoi t'es pas venu avant? Et on sent bien que Jésus a fait exprès de retarder son arrivée pour leur montrer que si, si, il était aussi capable de ressusciter. Un peu cette ambition vis-à-vis de Dieu. Et on a aussi ce verset dans Hébreux 3, au verset 19, l'auteur de la lettre aux Hébreux qui commente et qui dit, en fait, le peuple n'a pas pu entrer dans le pays promis à cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse que Dieu leur avait faite. Donc, Dieu qui est ambitieux vis-à-vis de nous, le revers, c'est aussi de se demander, est-ce que nous, on lui fait confiance, Seigneur, dans ma vie, ou est-ce que je manque terriblement d'ambition, entre guillemets, à ton égard, ou est-ce que je n'ose pas me saisir des promesses, me saisir de ce que tu m'enseignes, ce qui trahit mon manque de confiance, mon manque d'ambition peut-être, là où lui, il nous appelle à la perfection. Une fois qu'on a vu que Dieu était ambitieux vis-à-vis de nous, qu'on était appelé à faire des œuvres parfaites, il y a quand même un peu un autre pendant, je pense, à rappeler, et c'est... Jean 15, et c'est cette vérité toute simple qui est « séparée de moi, vous ne pouvez rien faire ». Et donc, le but, ce n'est pas non plus de partir et puis se donner tout feu tout flamme et faire plein de choses en se disant « ah très bien, c'est en faisant des essais que j'arriverai à la perfection avec Dieu ». Non, le fondement, c'est vraiment de rester, on va dire, accroché tout près de Jésus, tout près de Dieu. Et dans ce verset, « séparée de moi, vous ne pouvez rien faire », se dessine un peu la distinction hyper importante et qu'on n'entend pas beaucoup, je trouve, dans nos églises un peu occidentales, la distinction entre faire des choses pour Dieu et faire des choses avec Dieu. On est dans une société où on nous pousse à l'action, où on nous dit de s'engager, de faire plein de choses, et c'est merveilleux. Le problème, c'est qu'on peut évangéliser, être engagé dans le groupe de jeunes, dans la louange, faire énormément de choses pour Dieu sans les faire avec lui. Et manquer, en fait, d'être toujours on va dire, ancré en lui et connecté en lui. Et ce que ça implique, c'est vraiment la différence entre porter un projet, un ministère, un appel à bout de bras, et cette expression de Deutéronome 33 qui est « au-dessous de toi sont les bras éternels ». C'est Dieu qui porte ton ministère, c'est Dieu qui porte ton message, ton appel, et c'est en lui que tu le fais. Et donc c'est un peu cette prise de conscience pour que les œuvres soient parfaites de Sardes, là, un peu ce reproche que tes œuvres n'ont pas été parfaites, eh ben, c'est peut-être aussi que en fait, elles étaient pas, Dieu n'était pas à la source et à l'impulsion et à la manœuvre de ses œuvres. Et c'est vraiment une exhortation pour nous, du coup, à laisser agir et même vivre Christ à travers nous. Galates 2, verset 20 dit « Je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et un peu cette exhortation de se dire, bah, en fait, pour que les œuvres soient parfaites, autant que ce soit Jésus qui les fasse. Puisque quand Jésus fait, ben, c'est parfait. Et donc un peu de le laisser vraiment agir à travers nous, briller à travers nous. Mais c'est plus que briller, c'est agir. Galates 2, c'est plus ma vie, c'est la vie de Jésus en toi, c'est la vie de Christ à travers toi et en toi. Et on termine avec cette dernière phrase de l'exhortation où Jésus il dit « Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. » Ça aussi, c'est une exhortation qui me marque beaucoup parce que Dieu avait confié à Sardes quelque chose, un message, une parole, une révélation. Et puis maintenant, il était question de tenir ferme et de le garder. Et en fait, le fait de garder la parole, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans plein d'endroits dans la Bible. C'est un peu un message panoramique qui renvoie à pas mal de choses dans la Bible. Je mets deux exemples ici. Le fait que, au moment où Jésus envoie ses disciples à travers le monde, il dit « Allez et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. » Et de la même manière, on a cet exemple de Marie qui gardait toutes ces choses par-devers elle, les repassant dans son cœur, et la mère de Jésus qui conservait ses paroles dans son cœur. Et on a aussi un verset du psaume 119 qui dit ma part, ma portion, ma responsabilité, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Et en fait, le mot garder ici, c'est le même que Acte 16, au moment où Pierre est jeté en prison et qu'il est dit que les gardes, les soldats le jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder sur nous. Donc ce mot de garder la parole, de veiller sur la parole, de veiller sur ce que Dieu nous confie, en fait il tire un peu vraiment son origine aussi dans le fait de protéger, le fait de garder. Et oui, je pense qu'évidemment il y a une lecture qui est de dire garder, ça veut dire obéir, garder un commandement, mais je pense qu'il y a vraiment aussi cette notion de veiller sur quelque chose que Dieu nous confie. Souvent on garde quelque chose quand on sait que c'est précieux et quand on sait qu'on peut nous le voler. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de cas où, Dieu qui nous confie une parole, une prise de conscience, un verset qui nous fait avancer sur quelque chose dans notre vie de foi, en fait, il y a plein de cas où on se le fait voler juste parce qu'on a oublié de le garder ou de l'entretenir. Ça peut être volé par l'oubli, ça peut être volé par les soucis. Il y a plein de choses où on a l'impression de re-réaliser des choses qu'on avait déjà réalisées simplement parce qu'on n'a pas un peu veillé sur cette parole. Et souvent, dans quelques endroits dans la Bible où la parole elle est comparée à cette graine et qui vient, on va dire, ensemencer la terre de nos cœurs. Et je pense que garder, c'est aussi vraiment permettre à la parole de s'enraciner. C'est permettre à ce que Dieu nous confie, permettre à ces réalisations-là, ces paroles-là, de faire leur chemin dans nos cœurs pour que ça s'enracine et que ça porte beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Et donc, bah, Marie, c'est un peu un exemple qui méditait, qui repassait les choses dans son cœur, qui s'entretenait des choses de Dieu, qui, de cette manière, gardait, en fait, les promesses de Dieu pour pas que ça se fasse voler par l'oubli ou d'autres choses qu'on veut. Alors le petit bonus, c'est Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Le premier passage qu'on a vu dans le message à Sardes, c'est tu as le nom de vivre mais t'es mort et affermis ce qui s'en va mourir. Et la solution un peu à ça, c'était de se dire, ah ben en fait, à mesure que Christ prend de la place dans nos cœurs et formé en nous, on affermit ce qui s'en va mourir. Parce que tout le reste, en fait, s'enfuit. Le deuxième passage, c'était « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ». Et on avait un peu, on s'est un peu dit que la solution à ça, c'était que Christ agisse à travers nous et qu'en cela, nos œuvres sont parfaites parce que c'est les œuvres de Dieu dans nos vies. Et en fait, c'est comme si ce verset de Jean 14, verset 23, nous montrait que c'est en gardant la parole que Christ demeure également en nous. Et donc, on peut retourner la chose et se dire, bah, en fait, Christ demeure en nous par sa parole. À mesure qu'on entretient, qu'on veille sur cette parole, qu'on veille sur ce qu'il nous confie, sur ses prises de conscience, ses versets qui nous touchent, etc., Christ prend de la place dans nos cœurs, Christ est formé en nous, et du coup, Christ agit à travers nous. Et on a un peu ce qu'on voyait au début, qui est de dire que pour toutes les églises, c'est comme si la solution, c'était Jésus, au fond. Et ben, pour l'église de Sardes, en tout cas, ces trois phrases qu'on a vues, ben, en fait, la solution, c'est aussi Christ. On va dire, au fondement de la solution, il y a vraiment Jésus-Christ en nous. Voilà. Je m'arrête.